Que vous soyez à la terrasse d'un café après une journée bien remplie, rêvant de flâner nonchalamment, ça ou là dans la ville, chez vous, devant l'écran de votre ordinateur ou déjà en vadrouille sur place, Gadagne vous propose quelques repères pour mieux comprendre Gerland. Qui pourrait imaginer, en sortant du métro Stade de Gerland ou en attendant l'ouverture des portes de la halte Tony Garnier, que jusqu'au début du XXe siècle, ce sont les activités agricoles qui dominent dans ce quartier des rivières qui, au milieu des Launes, fournit aux Lyonnais céréales, fruits et légumes et produits de l'élevage. Ce n'est qu'en 1852, avec le rattachement à Lyon des faubourgs de Vez, de la Croix-Rousse et de la Guillotière, que la zone Gerland intègre la ville en partie. Située derrière les voies de chemin de fer, on y implante une première série d'usines, polluantes, concentrées autour de la rue principale, la rue de Gerland. Métallurgie, verrerie, tannerie, construction de bateaux. Avec cette industrialisation du début du XXe siècle, le quartier se dote de nouvelles voies de circulation. Les grands axes de l'actuelle avenue de Bourg, la rue Mérieux, l'avenue Jean Jaurès, le boulevard Yves Farge. Quelques initiatives d'habitat ouvrier voient le jour. Par exemple, la construction, entre 1924 et 1930, d'un des premiers ensembles d'habitations bon marché de Lyon, les HBM, qui côtoient les baraques, les bidonvilles de l'époque. Gerland est à bien des égards emblématique des transformations des grandes métropoles urbaines des 20e et 21e siècles qui s'opèrent sur plusieurs plans. Les visions nouvelles de l'architecte Tony Garnier et la volonté politique d'Édouard Herriot, élu maire de Lyon en 1905, vont trouver là un terrain propice à de grands aménagements urbains. La halle Tony Garnier, qui accueille l'exposition internationale de Lyon en 1914, abrite à partir de 1928 le marché à bestiaux. Ce marché faisant lui-même partie du plus vaste ensemble que constituaient les abattoirs de la ville, idéalement situés non loin du Rhône, dans lequel sont évacués les déchets. La halle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1975. Le stade, réalisé lui aussi par Tony Garnier, et dont la construction a débuté en 1913, est aujourd'hui encore un symbole fort de la ville. L'architecte Albert Constantin en a assuré la rénovation en 1998, tout en légèreté et en transparence, dans la continuité du projet pensé par Tony Garnier. C'est le premier élément d'une concentration d'aménagements qui font de Gerland un véritable pôle en matière d'équipement sportif. Le Palais des Sports, conçu par Louis Wekerlin, est en effet inauguré en 1962. Le récent skatepark, ouvert au public en juin 2000 dans le cadre de l'aménagement du parc de Gerland, réunit de nombreux passionnés de roller, de skate et de BMX sur 4000 mètres carrés d'espace. Situé le long du Rhône, le parc de Gerland, conçu par l'atelier Corajou, est inauguré en juillet 2000. Troisième parc paysager lyonnais, avec le parc des Hauteurs sur la colline de Fourvière et le parc de la Tête d'Or, il doit s'étendre à terme sur 80 hectares. Gerland, c'est aussi le cœur des dynamismes émergents. L'ancien pôle industriel du début du XXe siècle fait place aujourd'hui au boulevard scientifique conçu pour accueillir les entreprises de pointe du secteur des biotechnologies, notamment pharmaceutiques, et des technologies avancées. À chaque fois, ce dynamisme est renforcé par la préexistence ou l'aménagement d'infrastructures correspondantes. On peut citer par exemple le port Édouard Herriot, inauguré en 1938, aujourd'hui premier port intérieur français pour les conteneurs. Une dynamique en appelle une autre. Avec l'installation à Gerland de l'École nationale supérieure Sciences, bientôt suivie de Lettres et Sciences humaines, ainsi que la création de la cité scolaire internationale, le lycée international, Lyon affiche sa volonté d'être une ville d'excellence en matière grise également. En matière d'habitat, Gerland a longtemps été associé à la présence de bidonvilles, les baraques, qui ont occupé le sud du quartier jusqu'à la fin des années 1950. Les années 1970-1980 voient la création en nombre de nouveaux logements, à la fois des résidences de standing et des immeubles plus modestes. Aujourd'hui, si le risque de paupérisation de certaines zones est réel, la tendance est à la gentrification, embourgeoisement, de ce secteur de la ville. Il ne reste plus qu'un défi à relever, c'est le pari d'un quartier qui intègre pleinement ses habitants dans un cadre qui soit à la fois fonctionnel, chaleureux, où il fait bon vivre, grandir, rêver. à Gadagne, musée d'histoire de la ville. Vous pourrez voir entre autres documents d'archives et photographies l'affiche de l'exposition internationale de 1914 qui s'est tenue dans la halle Tony Garnier.